RVE, bonne matinée. Il est 10h.
La météo de votre région sur RVE.
RVE 103.7 avec dans quelques instants eh bien, le sport, voilà, pour parler du Tour de France, vous l'avez compris, avec Philippe Carnus. La météo pour aujourd'hui, c'est un ciel mi-figue, mi-raisin, avec quelques éclaircies, pas d'averses de prévues, des températures maximales 21 à 22 degrés.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnus.
Eh oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, depuis Montgeron, hein, où va se dérouler aujourd'hui eh bien, la dernière étape du Tour de France 2017, on vous avait promis hein, d'interrompre le congé radiophonique pour faire une émission spéciale Tour de France, revenir sur ces 3 semaines de compétition. Alors, avec moi, 2 personnes qui, comme moi, n'ont rien raté de ce Tour 2017. On va commencer avec Olivier Bourdin, le président de la section de Poigny-Rambouillet. Olivier, bonjour. Est-ce que ce Tour 2017 vous a plu ?
Oui, ben il plaît. Comme depuis un certain nombre d'années, il y a ce qu'il faut. Maintenant, après, ce sont les coureurs qui font la course. Bon, il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de circuits plats pour les sprinteurs, mais bon, il en faut. Il y a, puis après, c'est, on dirait, on fait les circuits. Après, je dirais le vélo et un sport en plein air. Et on a le temps qui fait aussi. Je dirais cette année, on n'a pas eu des rafales de vent qui nous auraient permis de faire des bordures, qui, je pense, auraient fait un tout autre image du Tour. Donc c'est pour ça, après il y a les sprinteurs, il y a la montagne, il y a du contre-la-montre, voilà. Non, depuis quelques années, ISO fait que il y a en matière en tout cas de pouvoir faire une course animée. Après c'est les coureurs qui font la course et voilà, bon maintenant les coureurs, il y a plusieurs choses, il y a la chance, il y a la course, il y a le vent, il y a le temps, et, tout fait une course et puis tout réuni, c'est ça qui fait gérer maintenant un spectacle, puisque là on a vu hier avec l'arrivée à Marseille, ça devenait vraiment un grand spectacle dans ce vélodrome.
Oui, donc on va revenir effectivement sur ces 3 semaines de compétition, sur la 4e victoire de Christopher Froome. Ça sera cet après-midi sur les Champs-Élysées. Avec nous donc Nicolas Vaucouleurs, au site de Vélostar. Nicolas, bonjour. Vous aussi, ça vous a plu ce Tour 2017 ?
Bonjour, effectivement, c'était un tour passionnant jusqu'à la fin, très serré, qui a laissé sa chance à beaucoup de coureurs. Ils ont su saisir leur chance. On a eu beaucoup de victoires françaises. Et c'était vraiment très intéressant à suivre.
Alors effectivement, hein, parce qu'on s'est un peu ennuyé quand même sur les tours de ces dernières années. Alors au départ, il y a 3 semaines, on se disait est-ce que Froome va pas encore écraser la compétition. Olivier, j'ai l'impression qu'on est passé dans un autre vélo aujourd'hui. Hein, les positions se resserrent. Froome va gagner le tour sans gagner d'étape. C'était plus arrivé depuis Lemon en 90 et Pereiro sur tapis vert en 2006. Finalement, quand on compare par rapport au tour d'il y a 10 ans, ça a complètement changé.
Ça a changé. Il n'a pas encore gagné. Hein. C'est ce soir quand il arrivera aux Champs-Élysées. Parce que
c'est pratiquement fait.
Ah, mais rappelez-vous, il y a 3 ans, je crois, c'était Perrault dans l'étape de sur les Champs. Il était tombé. Et on s'est dit, oui, mais il était pas loin. Donc oui, mais là, si Froome tombe dans l'étape du Tour, il se casse une clavicule, quelque chose. Je ne souhaite pas.
Alors nous, on va dire que Christopher Froome va gagner ce quatrième Tour de France.
Tant que la ligne n'est pas franchie, malheureusement, c'est un cas. Parce qu'on a vu hier, Uran n'aurait pu perdre sa deuxième place dans un virage. Il reste sur le carreau. On a vu Tony Galopin, la première étape, il est resté. Bon, il est reparti. Mais qui est parti de chez Movistar, qui n'a pas plu. Varenne.
Valverde,
qui lui, ça s'est stoppé. Donc un virage suffit. Hein. Donc il aura vraiment gagné au bout. Oui, une animation. Bon, ça change, ça évolue. Il y a beaucoup de choses qui évoluent autour du vélo, la façon de manager une équipe, hein, parce que maintenant c'est le management d'équipe pure dans l'équipe et puis pendant la course. Et la structure qui est autour fait que ça évolue. Nos équipes françaises commencent à se mettre au niveau. Hein. G2R a nettement progressé, passé une marche hein, dans cette structure. Les autres équipes, la française des Jeux aussi. Maintenant, ils se fixent des objectifs qu'ils arrivent à atteindre.
Ils terminent à 3, la française des Jeux, hein, sur ce tour.
Mais l'objectif qu'ils voulaient atteindre, ils l'ont atteint. Le but, c'était gagner une victoire d'Arnaud Démare. Ils l'ont eu. Ils ont mis en moyen. Ils ont mis. Bon, ça a duré que sur une semaine, mais bon, je dirais les circonstances ont fait que ça n'a pas pu continuer. Mais l'objectif a été atteint. Il y aurait qu'il y a des années, même dans les objectifs, ils arrivaient à 9. À quoi ils arrivaient ? Oui, à 9, mais ils n'avaient pas de victoire, ils n'avaient rien du tout, c'était aussi plat. Donc voilà, ils ont obtenu un objectif. G2R a fait ses objectifs, a construit une équipe autour. Ils ont failli réussir cette année. On s'aperçoit que maintenant, même la marge entre AG2R et l'ESCAI est beaucoup plus resserrée, hein, avec les autres équipes autour, c'est beaucoup plus resserré. L'effet de course ont fait que des équipes comme Astana ont été fortement diminuées, ce qui a permis malheureusement à Roux de ne pas avoir une équipe pour le supporter, pour pouvoir continuer de conserver son maillot jaune.
Il est quand même coincé en troisième semaine, hein. Il a une troisième semaine beaucoup plus difficile.
Il a coincé parce que, je dirais malheureusement, quand les cyclistes, hein, quand on est Froome, il est emmené pendant 200 km, 95% du temps, il est emmené par le coéquipier. Donc si Aru n'est pas emmené par le coéquipier, il fait le travail inverse. Donc c'est pour ça que la dernière semaine est dure pour ces gars-là, parce qu'ils n'ont pas une équipe autour capable de les emmener. Il faut regarder aussi au bout des buts, il faut étudier. Chez Sky, ils ont une stratégie de course qui est énorme. C'est-à-dire que les premières semaines, on a des coureurs qui prennent 15, 20, 30 minutes. La première semaine, ce sont les grimpeurs qui vont être là pour l'emmener Froome dans la montagne. Mais c'est sûr qu'eux, en fin de compte, leur tour, je ne veux pas dire qu'il ne dure que 15 jours, mais ils ont 15 jours d'efforts intenses. Ils n'ont pas 3 semaines d'efforts intenses comme certains coureurs qui peuvent l'avoir dans le tour. Et on s'aperçoit, c'est une stratégie. Pendant la première semaine, les coureurs, ils prennent 15 minutes, ils font les 40 derniers kilomètres en roue libre, ils font de l'entraînement. Donc c'est une stratégie. C'est qu'avec 9 coureurs, on a des gens qui vont emmener sur le plat, des gens qui vont emmener dans la montagne. C'est pour ça qu'on peut se permettre d'avoir des coureurs devant Froome qui peuvent emmener un col pendant 15 km à un certain rythme.
Surtout Landa, qui a fait un énorme travail. Celui-là, je crois qu'il faut le repérer parce qu'il va refaire parler de lui.
Oui, Landa il a fait un travail, mais je pense, à mon avis, les oreilles ont dû fonctionner pour lui dire de ralentir un peu. Parce que même la dernière étape, je pense que ça a dû siffloter. Comme à l'époque, on avait siffloté Froome de ralentir pour gagner Wiggins. Après, c'est les stratégies aussi, parce que Landa avait la valeur qui peut gagner le Tour de France aussi. Hein. Mm-hmm. Voilà, il y a eu une équipe derrière lui, je pense qu'il gagne le Tour de France aussi, je pense, facilement. Mais les autres avaient un rôle. Ils ont roulé pendant 15 km pendant la montagne, mais ils n'avaient pas roulé la semaine d'avant. Et c'est ça aussi qu'il faut encore s'améliorer sur ces stratégies. Là pour établir, c'est une course de 3 semaines, il faut se mettre les moyens en place, et c'est pas pour rien non plus qu'ASO voudrait diminuer les équipes de 9 à 7.
Oui, l'année prochaine, je crois qu'ils passent à 8, mais bon, peut-être qu'ils remettront une équipe supplémentaire, donc ça reviendra pareil.
Non, c'est différent parce que les enjeux sont pas les mêmes. Ouais. Quand vous avez 9 coureurs à la place de 7, à la fin du tour, c'est différent, la structure n'est pas la même. Donc oui, ça fera peut-être une équipe, voire deux équipes s'ils arrivent à passer à 7, oui, ça fera une autre opportunité pour les équipes d'attaquer différemment.
D'ailleurs, il y avait 198 coureurs au départ, comme pratiquement chaque année, 167 qui terminent ce tour, c'est-à-dire 31 abandons. On est à peu près dans les normes habituelles et puis traditionnelles. Nicolas, c'est vrai que ce tour a été hyper serré, hein, on le supposait il y a 3 semaines. Il n'a pas manqué grand-chose. On va avoir un vainqueur, donc Christopher Froome, qui va gagner son 4e tour sans gagner de moindre étape. Ça laisse, c'est bien, ça a rendu le spectacle plus sympa, ça laisse des perspectives pour les Français dans les prochaines années. Et puis le fait peut-être qu'on ait eu des étapes beaucoup plus courtes sur des parcours assez accidentés, c'est peut-être mieux aussi.
C'est sûr que c'est mieux, ça favorise tous les types de coureurs, dont Bardet. Mm-hmm. Malheureusement, ce tour, c'était un peu un tour à élimination. Les coureurs sautaient tous un par un. Aucun coureur ne s'est vraiment dégagé en tête, hormis Christopher Froome.
Et il a fallu le chrono d'hier à Marseille pour qu'il soit définitivement hors de portée.
C'est ça, on attend 3 semaines et tout se joue sur un chrono de 22 km. Il aura malheureusement pas manqué grand-chose à Romain pour signer une belle deuxième place. Malheureusement, il a encore des progrès à faire sur le contre-la-montre. Mmh. On espère le voir un peu plus fort l'année prochaine.
Imaginez une petite seconde aujourd'hui pour la 3e place devant Landa. Ça veut dire c'est les sprints bonif qu'il a fait aux arrivées. C'est ça qui lui donne cette 3e place.
Oui, et puis c'est ça. Ouais. Mais la course, on ne peut pas la résumer sur seulement des sprints. Il y a plein de petites choses qui ont fait que Romain a été souvent à l'attaque, donc il est vraiment allé la chercher, ses secondes. Mmh. Donc c'est mérité.
Bien sûr que c'est mérité, 3e place. Ça aurait été une injustice, Olivier, qu'il puisse pas monter sur le podium. Or, c'est pas fini aujourd'hui, mais enfin, on peut penser que Bardet va être dans la roue de Landa. Ça va être difficile pour Landa d'aller chercher une place à l'arrivée qui lui donnerait des bonifs. Donc ça aurait quand même été une injustice que Bardet soit pas sur le podium.
Oui, une injustice, mais il faudra faire méfier aussi aujourd'hui, c'est que maintenant, depuis cette année, il y a un nouveau règlement, un trou de 2 secondes, oui. Le temps est pris. Voilà, est pris. Donc là, si à l'arrivée finale du sprint, il faut que Bardet soit dans la première partie du peloton. S'il y a un trou de 2 secondes, il peut se retrouver avec 15 secondes derrière.
Donc il y a un petit peu de suspense pour l'étape de cet après-midi.
Parce que c'est depuis cette année le nouveau règlement qui a été institué pour ces trous, surtout pour les arrivées en montagne. Mm-hmm. Voilà, oui, donc Bardet, il est à sa place, il la mérite largement, puisque c'est quand même l'un des rares, des 5 leaders d'avoir attaqué. Il a essayé. Il a pas que gagné ses secondes aux bénéfications, parce qu'il les a aussi, malheureusement, il les a perdues parce qu'il avait derrière lui des gens qui sont un peu alliés et ils ont été fromes pour revenir sur lui. L'étape de foi, si on s'était pas alliés, je pense que Bardet finissait avec une minute quinze, voire une minute trente d'avance sur Froome. Ça aurait été une autre course. Ce jour-là, les Astana et puis les Canadol ne roulaient pas. Ils laissaient Froome se débrouiller. C'était une autre course. Donc voilà, il les a perdus aussi parce que les autres ont roulé sur lui. Ils ont roulé sur lui. Donc bon, c'est un peu ça qui est un peu embêtant, c'est qu'on dit on veut tous gagner contre Froome, mais on s'allie tous derrière pour y aider. Parce que ce jour-là, c'est la seule étape que la GDR avait réussi à isoler Froome. Ce jour-là, si les Cannondale et Astana laissaient vraiment le rôle à Froome de jouer, c'était 1 minute 30 qui perdait ce jour-là. Et je pense qu'on a eu à assister à notre tour. Donc voilà, c'est cette stratégie-là qui fait. Donc Bardet, il a mérité. Il a attaqué sur le plat, bon, dans la descente. Il a attaqué dans l'école plusieurs fois. On l'a vu, c'est lui qui a attaqué. Hein. Uran, bon, moi, c'est pas un coureur que j'apprécie, parce que pour moi, on est dans le coureur du monde, c'est un suceur de roue, oui. Parce que c'est un coureur qui suit. Mais il n'attaque pas. Jamais il n'a attaqué. Donc c'était un peu, comme moi je regrettais aussi Perrault, c'était un peu ce style. On suit les coureurs, on suit, mais on n'attaque pas. Donc je dirais, c'est un peu plus facile, je dirais, d'avoir un contre-la-montre, il sait qu'il est très bon. Donc en attaquant bon, donc il avait de l'énergie. Pourquoi Bardet a craqué hier? Parce que les trois derniers jours à attaquer tous les continuellement, il a laissé des plumes, il a laissé ses plumes. Loran, lui, il a fait suivre. C'est difficile de suivre, mais on en laisse moins de plumes en roulant un rythme que d'attaquer. Et donc Bardet, il mérite vraiment sa troisième place.
Allez, on revient donc en détail sur ces trois semaines de compétition. Là, on l'avait dit, ça avait commencé le 1er juillet dernier sous la pluie, 13 km contre la montre. Geraint Thomas qui gagne. Et c'est vrai, un premier fait important dans ce tour. Valverde qui tombe et qui est contraint déjà à l'abandon. Ça a pu handicaper Quintana.
Quintana, et puis surtout l'équipe Movistar, hein, parce que Valverde, il est bon en montagne, mais il est super bon stratégique sur le plat. Et on est à une étape de moment de plat et dans le vent. Je pense que, comme il a déjà prouvé il y a 2 ans, je pense qu'il aurait pu un peu mettre la zizanie dans ce tour. Et on a eu une autre configuration, parce que Valverde, c'est un coureur de classique qui arrive à se dépasser dans le tour. Mais lui, un tour, c'est 22 classiques. Et je pense que Valverde, sur le Tour de France, avec des étapes de plat qu'on a eues avec du vent, je pense qu'on arrive à autre chose.
Ouais, c'est vrai, troisième il y a 2 ans, et puis alors quel palmarès, hein, de nombreux Liège, Bastogne-Liège et de nombreuses Flèches Wallonnes, quel palmarès pour Alejandro Valverde qui était souvent là et pratiquement toujours dans les 10 premiers de chaque Tour de France. La deuxième étape c'était Düsseldorf-Liège, 202 km, pour Marcel Kittel qui s'est imposé, et le lendemain donc Verviers-Longwy, 202 km, victoire de Peter Sagan. On sait qu'il déchausse, il gagne quand même, Peter Sagan qui va savoir donc exclure le lendemain, dans l'étape Mondorf-les-Bains-Vittel, longue de 203 km, avec la victoire d'Arnaud Démare. Cavendish tombe, donc il va à la faute, il s'arrête. Sagan devait être expulsé ou pas, parce que c'est vrai que Cavendish, quand même, il s'engage dans un trou de souris, quand même. Hein.
Après, c'est un grand dilemme, mais les commissaires UCI, des fois, ils sont un peu... il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que on va exclure Sagan sur cette faute-là, mais il y aura beaucoup de coureurs qui ont dû être exclus. Même, malheureusement, même Denard a dû...
Oui, qui fait un travers avec Boigny. Hein.
Voilà, mais bon, je dirais, le geste qu'il fait, bon, c'est vrai que c'est pas un geste, c'est un geste à ne pas faire, mais je dirais, tous les sprints, on voit des sprints en piste, on voit tout ça, ça fait partie du géré du sprint. Bon, il a pas lâché son guidon, il aurait lâché son guidon, oui, ça aurait été vraiment... Mais là, sans lâcher son guidon, beaucoup en sprint, on voit, on écarte les bras, ça fait partie du sprint. Et après, bon, on a Cavendish, je pense que c'est la personne qui est la moins bien placée pour... c'est pas lui qui a respecté, hein, d'ailleurs. Hein. Mm-hmm. Mais lui, les 7 dernières années, il a fait plus de gamelles qu'il a fait de gestes correstes. Hein. Exclure Sagan, on aurait dû lui mettre une pénalité comme c'était prévu au début. L'exclure, non, je pense pas. Parce que après, ça, à ce moment-là, on va s'arrêter.
Il y a une petite faute, hein. C'est vrai qu'on voit le coup de... Mais c'est vrai qu'aussi, il s'engage dans un trou de souris, quand même, hein, Cavendish.
C'est plus un réflexe, je pense, de sa part, ou est-ce aussi sur le vélo, que un acte intentionnel face à Cavendish. Cavendish, de toute façon, n'avait pas la place de passer, donc il a lui aussi cherché l'erreur.
Et la victoire d'Arnaud Démare, première victoire donc française sur ce Tour 2017, ça c'est bien. On est complet partout, on a des baroudeurs, on a des sprinters, on a des grimpeurs.
Bien, parce que Démare, il est en progression, hein. Je pense que c'est un bon sprinter en progression. Il a gagné donc déjà l'Union San Remo, Tour de France. Bon, après, il a été malade, mais je dirais malheureusement.
Champion de France 2 fois.
Champion de France 2 fois. Et je pense que C'est un futur vainqueur de Paris-Roubaix. On va bien vainqueur de Paris-Roubaix parce que c'est un sprinteur costaud. C'est un peu comme à l'époque Bowman, c'est au début, un super sprinteur qui est passé, qui a su se reconvertir sur les classiques. Et il aime bien la Belgique, tout ça. Je pense que voilà, on a vraiment dans tous les domaines, il ne manque maintenant que des purs, des vrais rouleurs. Maintenant, à voir progresser de ce côté-là. Et après, sinon, on a vraiment une homogénéité dans toutes les disciplines de ce côté-là.
Alors ensuite, cinquième étape, Vittel, la planche de Belleville. C'est vrai que sur le Tour, depuis quelques années, on essaie d'avoir des étapes de montagne le quatrième ou cinquième jour. Et là, c'est Fabio Aru, l'Italien, qui s'impose au sprint hein, parmi les favoris. Alors c'est vrai que la bataille, elle s'est déclenchée que sur le haut. Aru a fait preuve de plus de punch, 160 km. Une première indication, mais ceci dit, voilà, Aru, il a été moins bon par la suite.
Oui, mais maintenant, on n'a plus le même grimpeur. Mais bon, ça s'explique aussi. Hein, j'en discutais avec Chabanel quand il venait à Saint-Quentin. Il dit maintenant, on a les coureurs qui arrivent avec une taux de masse graisseuse très, très, très faible. Et ils n'ont plus de réserve comme ils avaient avant. Et même les grimpeurs, maintenant, ils se mettent sur des profils de rouleurs, donc ils n'ont plus de masse réserve. Donc les sprints qu'ils pouvaient faire sur un kilomètre ou deux, ils ne peuvent plus les faire que sur 300, 400 mètres maintenant, les purs grimpeurs. Donc c'est pour ça qu'ils font moins d'écart, c'est pour ça qu'ils attaquent vers la fin, parce qu'en sachant attaquant à 5 kilomètres, ils savent qu'avec la locomotive Sky, ils vont se faire avoir automatiquement. Donc c'est pour ça qu'on n'a plus d'attaque vraiment franche du bas de l'école, qui pourrait faire des écarts, parce qu'ils n'ont plus de réserve, ils ne sont plus capables d'aller très loin. Mais après, Aru, il a fait son rôle de sprinter, de grimpeur sprinter, très très bien, et il ne démérite pas parce qu'il a fait une belle attaque, il a su conserver son avance.
Oui, et c'est là que Christopher Froome prenait le maillot à Geraint Thomas. Alors ensuite, eh bien, sixième étape, Vesoul 3, 216 km, Marcel Kittel qui s'impose vraiment d'un petit chouïa hein, sur le fil devant Arnaud Démare, et puis Kittel qui remet ça le lendemain, 3, Nuit Saint-Georges, 214 km. Ça c'est deux étapes de transition pure, mais elles sont indispensables dans le Tour de France, Nicolas, ces étapes. Hein.
C'est ça, ça permet aux organismes de se reposer un petit peu avant vraiment la montagne. Ça permet aux coureurs de souffler et ça permet de faire des kilomètres.
C'est des scénarios classiques. Hein. On laisse une échappée se développer dès le début, on contrôle avec les oreillettes, on reprend et on revient donc sur les poursuivants à 5-6 kilomètres. Et puis après, c'est une affaire de sprinter. Tout du moins, la première semaine, c'est ça.
Logiquement, c'est comme ça que ça doit se passer. Après, on peut toujours avoir des surprises. Un groupe de 10 qui part dès le départ, ce sera tout de suite plus difficile à les chercher. Ou alors un vent de face. Tout simplement, dans les 10 derniers kilomètres, ce sera aussi plus difficile. Donc évidemment, ces coureurs, en partant à deux, ils savent que c'est perdu, mais on ne sait jamais. Ils peuvent tenter et être récompensés.
Alors, ensuite, Dole, station Les Rousses, c'était 187 kilomètres, là, c'était le samedi. Et là, deuxième bonne surprise française, un baroudeur, un homme de caractère, Lilian Calmejean, le Français qui s'impose. Ça, c'est un coureur dont on va reparler. Parce que c'est un coureur tempérament, il est allé chercher sa victoire à la pédale, comme on dit, avec beaucoup de tempérament. Hein. On a vu ces images où il a été en difficulté sur la fin, mais il a serré les dents pour tenir. Belle victoire de Lilian Calmejean.
Oui,
de Direct Energy.
De Lilian Calmejean, c'est le Barguil d'il y a 3 ans. Hein. Oui. C'est exactement la même chose. Barguil, bon, il a eu un an et demi de coupure avec malheureusement avec des chutes. Mais Lilian Calmejean, c'est à son âge, il est fougueux, il attaque, et puis il a des moyens. Et puis dans 2-3 ans, il va un peu avoir de maturité. Puis ma chérie, il sera même comme Barguil. C'est comme Barguil il y a 3 ans. Et maintenant, on a cette nouvelle génération de Français qui ont du caractère. Ils ne se laissent pas marcher sur les pieds. Moi, je m'en rappelle, Barguil, il y a 3 ans, quand c'est Lara dans une bordure qui dit de rouler, Barguil il a dit c'est pas moi qui a de rouler, c'est à toi de rouler. Un gamin qui avait 20 ans de dire ça à quand c'est Lara, c'est qu'ils ont du caractère. Et Lilian, c'est pareil, le caractère qui fait que ils se permettent de tenter des choses et d'arriver au bout. Et puis même dans la souffrance, parce que des crampes à 5 km, c'est tout l'un ou tout l'autre. Hein. C'est soit on repart ou soit on reste assis pendant 20 minutes. Hein. Mm-hmm. Et là, il a su surmonter, gérer ce passage. Ça a duré pendant 15 secondes. Voilà, il a su surmonter puis il a bien finir.
Et puis le lendemain, une des plus belles étapes de cette édition 2017 du Tour, peut-être la plus belle, Nantua-Chambéry, 181 km. Victoire de Rigoberto Urán, un kiff. qui coiffe justement Barney, le d'un petit chouïa sur le fil, mais qui est l'étape. Il s'est passé plein de choses, des drames, des émotions, des marques qui s'arrêtent hors délai, porte qui tombe, qui envoie Martine au tapis, et puis finalement donc Uran qui parvient à l'emporter après que Bardet ait aussi été échappé, notamment grâce à la descente. On a tout dans cette étape. Elle a été fabuleuse dans des conditions météo très difficiles.
Oui, mais ça fait partie des courses, la compétition, c'est la course, c'est le circuit, c'est les coureurs, c'est les conditions climatiques, c'est une façon de faire. C'est pour ça que moi je suis pas trop d'accord quand Froome il loupe un virage, on l'attend, un rond-point, on l'attend. Ça fait partie, si on sait pas prendre un rond-point, et ben on sait pas, c'est pas mon coureur. C'est ça fait partie de la course. Pourquoi on attend le leader? Non, il s'est pas viré. Pour moi, ça devient complètement aberrant de pouvoir d'attendre parce que en erreur, oui, ça fait partie. Comme la crevaison fait partie de la course. Ça, tout ça, c'est de A à Z. Donc maintenant, je trouve ça inadmissible. Et les conditions font que cette étape était magnifique. Et voilà, mais ça fait partie. C'est la pluie fait partie des courses. Descendre de col sous la pluie, faut savoir, faut prendre des risques. On a des étapes de sprinteurs, des étapes de grimpeurs, des étapes de baroudeurs. Et la descente sur la pluie, ça fait partie du cours cycliste. Et si malheureusement Froome, il fait toutes les premières parties de la saison, il le fait pas parce qu'il a peur de la pluie, tout ça. Bah oui, mais ça serait peut-être bien qu'il s'y mette pour peut-être un peu mieux dans les descentes mouillées. Voilà, ça fait partie du coureur cette condition, et bien ça nous fait après des belles étapes comme celle-ci.
Nicolas, quelle étape? C'était peut-être la plus belle de cette édition donc 2017 du Tour. Il s'est passé plein de choses ce jour-là.
C'est sûr, c'était une étape à rebondissement, mais comme disait Olivier, c'est les coureurs qui font la course. Donc évidemment, Froome il a loupé un virage, mais il y avait la pression, ça roulait assez vite, tout ça a été imposé par les coureurs. Donc c'est eux qui ont fait la course.
Allez, on marque une petite pause musicale, une petite page de pub pour finir cette première semaine, et puis ensuite on part sur les deux semaines suivantes de ce beau Tour de France 2017.
Vous voulez devenir propriétaire dans un cadre rural avec une qualité de vie exceptionnelle, avec des équipements adaptés, une école, niveau maternel et primaire, des équipements sportifs, une médiathèque, une salle polyvalente et des associations dynamiques? Pont-Évrard, à 3 km de Saint-Arnaud en Yvelines, est un village dynamique, résidentiel, adapté pour accueillir votre famille. Il est desservi par des lignes de bus régulières et situé à proximité d'une gare routière vers RER et TGV et de l'autoroute A10 à 11. Alors découvrez le lotissement Lorée du Bois en lisière de forêt à Pont-Évrard. Et il est éligible au prêt à taux zéro. Contactez la mairie, 5 places de la mairie, au 01 30 41 22 13. 01 30 41 22 13. Changez de vie et devenez Évry-Pontin. Bienvenue au Royal de Gazeran à Rambouillet, zone du Bel Air, face au magasin Feu Vert. Votre restaurant vous accueille dans un nouveau cadre convivial, avec un espace enfant, pour un moment entre amis ou en famille, 7 jours sur 7, midi et soir. Le Royal de Gazeran vous propose son buffet à volonté. Entrée, plat, dessert tous les jours. Et aussi la livraison à domicile sur royaldegazeran.fr. Le Royal de Gazeran, zone du Bel Air, 7 rue Gustave Eiffel à Rambouillet. Téléphone 01 30 41 78 88. Bienvenue au Savoyard, 46 rue d'Angivillers à Rambouillet. Depuis 30 ans, le restaurant Le Savoyard propose une cuisine traditionnelle française et aussi des spécialités savoyardes. Le tout fait maison. Alors pour un moment convivial entre amis ou en famille, votre restaurant Le Savoyard vous accueille du mardi au samedi soir. Le Savoyard, 46 rue d'Angivillers. Téléphone 01 34 83 35 77.
Sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier.
ensuite, après une journée de repos, ben, il y avait une étape typiquement donc dans ce beau département de la Dordogne, Périgueux-Bergerac, 178 km, victoire de Marcel Quittaine, qui remet ça le lendemain hein, entre Aimé et Pau, sur donc une distance de 202 km. Marcel Quittaine, ça lui fait finalement 5 victoires d'étape, même s'il a été ensuite contraint à l'abandon. Olivier, c'est le sprinter de ce Tour 2017.
Oui, 5 et puis 13 au total, hein, 13 victoires au total. Non, même 14, il a fini avec 14 parce qu'il voulait pas rester à 13, il avait dit à Christian Prudhomme qu'il voulait pas rester à 13, donc il a fait 14. Ça lui fait 14 victoires d'étape. Oui, ben, ce sprinter, bah, de toute façon, une puissance hein, phénoménale, hein, quand on voit, c'est vraiment de la musculature, mais il s'est en plus amélioré cette année parce que malheureusement, on n'a pas pu gérer. Il irait bien mieux passer les bosses quand même. C'est pour ça que le maillot vert, il l'avait vraiment détenu, puisqu'il a réussi à faire les sprints intermédiaires, même avec quelques cols au début, parce qu'il a réussi à passer les premiers cols. Je sais plus dans quelle étape qu'il est parti. Et on dit, Quintel dans une étape de col, en tête dans les 25 échappés. Oui, mais il a réussi à faire son classement intermédiaire. Il avait vraiment, avant son abandon, il était vraiment largement devant. Donc c'est pour ça, non, un très très bon sprinter. Bon, il est bien emmené. L'équipe Mapei a toujours su bien emmener les coureurs. Toujours une stratégie, mais bon, vraiment une puissance. Quand on voit, il part à 100 mètres, il est encore 10 mètres derrière, il arrive devant. C'est qu'il a vraiment une puissance phénoménale au sprint.
Alors ensuite, eh bien, la montée sur Périgueux, l'étape pour Périgueux, 214 km. Et là, troisième belle émotion pour les Français, Romain Bardet, donc, qui à la pédale, hein, là aussi, l'emporte et s'impose. C'est la seule peut-être fois où on voit Christopher Froome un tout petit peu en difficulté, dans une montée difficile sur la fin pour lui, même si l'explication, elle a eu lieu qu'en haut de cette montée à Périgueux entre les principaux favoris.
Effectivement, on a vu Chris Froome un peu derrière. C'était un petit peu inquiétant parce que c'était la première vraie explication entre les leaders. Mais après, il nous a montré qu'il a su répondre présent à la fin du tour et qu'en fait, il montait tout simplement en puissance. Donc il s'est pas inquiété, il a géré sa montée en grand champion qu'il est.
Alors ensuite, Saint-Girons-Foix, 100 km, on attendait beaucoup de cette étape, ça a été la grande bataille, c'était le 14 juillet, et après Bardet, bah, c'est Warren Barguil, Wawa, celui qui a peut-être médiatiquement été le grand coureur de ce Tour 2017, qui s'impose. Barguil, coureur fabuleux, hein, il est parti derrière en contre, il est allé rejoindre Landa et Contador, et ensuite il les dépose, c'est fabuleux.
Bah oui, un vrai grimpeur français qu'on a longtemps qu'on en a eu. Et c'est vrai que bah, un caractère, et puis une joie sur le vélo, on le voit, et comme il dit, c'est un jeu, il se fait plaisir. Il a encore plaisir, il a plaisir sur le vélo. C'est surtout ça qui est important. Et on le voit, la preuve c'est qu'il a attaqué plus d'une fois, il a réussi plus d'une fois son coup. Bon, il ramène 2 victoires et pratiquement une troisième, puisqu'il a fallu séparer 3 mm donc avec Uran. Donc c'est un très très bon coureur, très dynamique, un bon caractère. Un breton, donc je pense qu'il a encore un bon avenir devant lui, et je pense qu'il faut faire attention qu'on n'essaie pas de l'orienter vraiment sur de leader de grande équipe, c'est peut-être pas son rôle.
Non, c'est plus un rôle, Richard Virenque, on l'a beaucoup comparé à Virenque, c'est vrai qu'il a une façon de courir particulière, il attaque de loin, hein, la preuve c'est qu'il a, ses victoires, elles se sont dessinées de très loin, il attaque de loin, c'est un coureur de punch, effectivement, donc il y a plus de Richard Virenque, en plus il est maillot à poids sur ce Tour de France, il a gagné comme Virenque un 14 juillet, il est plus dans ce rôle-là.
Oui, plus dans ce rôle-là, il faut pas essayer de s'orienter. Beaucoup de coureurs, malheureusement, qui ont un peu échoué leur carrière parce qu'ils ont voulu s'orienter sur des classements généraux, sur les grands tours, et en fin de compte, ils ont complètement délesté à côté, alors que lui, c'est son caractère. Non, il veut, lui, son projet, c'est de gagner les Liège-Bastogne-Liège. Hein. Mm-hmm. Il l'a dit ouvertement. Ce sont des courses comme ça, c'est des courses de classique, et puis il a plus son rôle-là. Après, en contre-la-montre, on voit ses limites, donc c'est pas... S'il y a déjà des limites de 2 minutes, il n'arrivera pas à les combler par rapport à d'autres super rouleurs. Donc c'est pas la peine, on a essayé de les faire, on n'a jamais réussi à combler 2 minutes. 30 secondes, on arrive à faire des efforts pour combler, mais pas 2 minutes. Là, on voit aujourd'hui, il finit à 2 minutes 50. Bon, il n'y a pas de folie, mais par contre, il faut qu'il il conserve dans son machin, et puis c'est plus animé, ça donne une dynamisme d'une course. Voilà, je dirais, pour moi, c'est plus beau à voir un vainqueur d'étape comme ça qu'un vainqueur de général.
Ouais, et puis ça donne une belle étape, il a déposé Quintana, et puis il est allé ensuite dépasser, donc Contador, et puis Landa pour aller gagner une belle victoire d'étape en ce 14 juillet. Le lendemain, Blagnac-Rodez, 180 km, ça arrivait tout en haut, là c'est Michael Matthews, hein, un baroudeur sprinter qui l'emporte au sprint, un sprint donc massif, avec quand même une cassure qui sacrifie à roue, et Froome reprend son maillot.
Bah oui, c'est ça, c'est les courses et puis le nouveau classement. Maintenant, il faut faire très attention. On disait 2 secondes, enfin c'est pas 2 secondes de trou, c'est 2 secondes. C'est qu'on prend le temps du premier et à son temps positionné. Donc ça, il a fait 25 secondes d'un seul coup de pénalité, alors qu'il y avait 2 secondes l'année d'avant. Il a eu quoi, 2 secondes de perdu. Là, c'était 25 secondes. Donc il faut être présent en permanence. Des détails qui font que bah, maintenant, il faut être concentré jusqu'au passage de la ligne. Comme je vous dis, bah, cet après-midi, il faut être concentré jusqu'au passage de la ligne pour aller au bout.
Alors ensuite, eh bien, 15e étape, Lessac, Sévrac, l'église, donc village de l'Aveyron, le Puy en Velay, 189 km, victoire de Bokeh Mollema, qui traditionnellement jouait le général, là il était hors du coup, il a préféré jouer l'étape, il gagne en costaud, en solitaire, hein, au cours d'une belle étape où il y a eu quand même de la belle bataille, ça roulait pratiquement du début à la fin. Belle victoire de ce coureur aussi de tempérament, hein, en solitaire, beau punch.
C'est ça, donc en général, c'est plutôt un coureur de classement général, donc qui va plutôt viser...
Qu'on voyait pas trop, un peu comme Uran, et puis là on l'a vu, il gagne son étape.
C'est ça, il a vite été éliminé du général, donc il n'a pas eu le choix, comme avec son équipe Trek, de s'orienter vers une victoire d'étape, donc ce qu'il a admirablement fait.
Alors sur des parcours comme ça, très vallonnés, hein, très accidentés, ce genre d'étapes qui souvent sont très spectaculaires parce que ça roule très vite. Alors après une journée de repos au Puy-en-Velay, bah Michael Matthews a remis ça à l'Australien. Il s'est imposé entre le Puy-en-Velay et Romans-sur-Isère, 165 km. C'était la première fois hein, que le Tour arrivait à Romans-sur-Isère. Victoire là aussi, en puncher de Matthews.
Oui, et puis aussi accompagné d'une bonne équipe. Hein. L'équipe a su se mettre, Warren Barguil s'est mis à rouler pour justement être dans le train. C'est cette équipe-là qui a leur point fort à fait, c'est que ben ils sont venus pas pour gagner général au global, mais pour faire des belles épreuves, des belles étapes, et puis s'ils y arrivent, puisqu'ils vont arriver cet après-midi avec un maillot à poids, un maillot vert, combien 4 victoires individuelles. Je pense que c'est le plus beau résultat du tour, hein, même devant les Sky, largement devant les Sky. Que bon, voilà, donc c'est un super résultat. Puis Matthews, c'est un routier sprinter qui, je pense, qu'on va entendre encore parler pas mal et surtout dans les classiques, je pense.
Alors le lendemain, une des grosses étapes des Alpes que l'on attendait, on était un peu déçu. Hein, la grosse bataille entre les leaders n'a pas eu véritablement lieu. Lamure-Serre Chevalier, 183 km avec le col le plus haut de ce Tour de France, le sommet du Galibier. C'est Primoz Roglic, un Slovène qui s'impose en solitaire. Il est rescapé d'une échappée du matin. Belle victoire de ce coureur qui quand même est un coureur de tempérament. Mais c'est vrai qu'on est resté un peu sur notre faim à travers cette étape.
Bah oui, je dirais maintenant c'est les compétitions modernes, c'est que on se regarde et on promet de s'attaquer dans les 5 derniers kilomètres, on promet puis on n'y arrive pas. Donc c'est ça le problème, c'est que maintenant le classement général, il se fait quasiment à 5 kilomètres de l'arrivée, ce qui est un peu pénalisant pour attaquer l'équipe Sky. De toute façon, il ne faudra pas se leurrer. Si on veut vraiment, mais bon, je pense que ça changera dans les prochaines années, l'équipe Sky. Si on veut attaquer Sky actuellement, il faut attaquer à 80 km de l'arrivée. Il faut isoler Froome. Si on n'arrive pas à isoler Froome, il sera imbattable. Il a un train, il a 3 coureurs qui seraient capables d'être leader dans n'importe quelle autre équipe. Donc voilà, c'est imbattable. Si on n'attaque pas à 80, si on attaque à 5 km, il y a encore ces mecs, ces gros rouleurs qui vont l'emmener, qui vont ramener, qui vont boucher les trous, des purs grimpeurs.
Mais c'est pas lié au cyclisme moderne, parce que du temps d'Ignorain, il y a 20 ans, c'était déjà ça. Armstrong aussi, maintenant, donc Froome, c'est vrai que les époques Merckx, où on attaquait de loin avec Thévenet, Ocagna, Zotemelk, est-ce que c'est pas une nouvelle façon de courir aussi, Olivier? Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui tentent ça, hein, finalement. La bataille, elle se fait pratiquement sur un col maintenant.
Bah oui, ça fait ça sur un col. Maintenant, après, ce sont des objectifs, ce sont les nouveaux managements, de nouvelles équipes. Maintenant, on a des équipes. Froome, je crois qu'en cours d'année, à part le Tour de France, il doit faire 10 courses dans l'année. Voilà, il a un objectif. Par contre, le jour qu'il arrête plus, qu'il gagne plus le Tour de France, ça y est, sa carrière est finie. Après, bon, c'est un pari médiatique, un pari de sponsor à faire. C'est vrai que c'est ça depuis 20 ans. Maintenant, après, c'est pour ça que beaucoup de spectateurs regardent de plus en plus les classiques, parce que c'est plus animé. C'est maintenant, on connaît les vainqueurs, dès le début de la première semaine. S'il n'y a pas de catastrophe, on sait à peu près qui c'est qui va gagner.
Là, il n'a pas sommé le tour, hein, cette année, Froome. Hein, il l'a pas sommé. Hein.
Ben non, il l'a pas sommé parce que son équipe était moins puissante que les dernières années. Et les autres équipes, comme AG2R, étaient beaucoup plus. Comme je disais tout à l'heure, ils ont réussi à l'isoler une fois cette année. Les années précédentes, ils n'ont jamais réussi à l'isoler. Cette année, ils ont réussi à l'isoler une fois, voire deux fois. Donc c'est là qu'on commence à voir, les écarts se font de moins en moins. Et voilà, c'est l'avenir, c'est qu'on arrive à avoir des équipes, malheureusement dans le foot, on a des super divisions avec des budgets à 300 millions d'euros, on a des petites équipes de 15 millions. Quand on arrive à avoir 5 équipes, on commence à avoir un championnat intéressant. Sinon, la grosse tête de lit, il gagne tout le temps. Et là, c'est pareil, Sky, dans les grands tours, ils surpassent, ils ont un budget 10 fois, 15 fois plus que les autres équipes. Ils ont des leaders, ils ont des gérer des coéquipiers qui pourraient être leaders dans chaque autre équipe. Donc c'est sûr qu'on arrive à une dimension qui est extrême et qui, pour les combattre, il faut les combattre de loin parce qu'en attendant, on n'y arrivera pas. C'est comme l'époque de l'équipe Ignorène ou Armstrong, même si on revient en arrière, c'est pire que ça. Voilà, mais c'est ça, il faut les combattre et les combattre avec les moyens qu'on peut disposer, c'est-à-dire les attaquer de très loin. Et peut-être, si on n'arrive pas à avoir une grande équipe, c'est s'associer à trois équipes pour attaquer Armstrong. Ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est que la preuve qu'on disait, quand Armstrong a été isolé, c'est les autres équipes qui ont sauvé la peau, puisqu'ils l'ont ramené devant sur Bardet. Ce jour-là, il roulait pas, Rome, il était autrement.
Alors, une 18e étape, le lendemain, qui par contre a dû toutes les promesses. Quelle bataille pour cette première au col de l'Isoard, entre Briançon et le col de l'Isoard, 178 km. Warren Barguil qui remet ça. Il a tout. Il termine dans le top 10, il finit maillot rose, il est vainqueur un 14 juillet, il est le premier vainqueur dans l'histoire du col de l'Isoard. Ça a été une véritable et une belle bataille, Warren Barguil. Et puis le lendemain, entre Embrun et Salon de Provence, 220 km, c'était donc vendredi. Là, il n'y a pas eu de problème. C'était une étape type, de fin de Tour de France. On laisse partir une échappée dès le début. Il en sort un rescapé, un baroudeur. C'est Boasson Hagen qui était souvent passé de peu sur les places d'honneur. C'était même fait coiffer sur une étape sur le fil par Kittel. Il sauve son tour, il le gagne. Nicolas.
Effectivement, c'est un très bon sprinter. Malheureusement, face à Kittel, il n'a pas eu énormément de chance. Donc après, il s'est recyclé, il est parti dans une échappée. Dans l'échappée, effectivement, si l'échappée arrivait au bout, il faisait figure d'épouvantail. Au sprint, il est difficilement battable. Pour pas laisser passer sa chance, il a pris ses responsabilités. Il a attaqué dans un rond-point à 3 km de l'arrivée pour finir en...
Et l'ont perdu.
Ah non, c'est un gros rouleur. Il est champion. Il a été champion de Norvège, le contre-la-montre. Donc c'est pas n'importe qui. À partir du moment où il est sorti, c'était fini.
Et Barguil, la veille, on en a parlé, c'est ce fameux doublé, il est parti à l'Aviron, qu'il a fait le spectacle, c'est fabuleux.
C'est ça, tous les favoris se sont gardés, il a tenté sa chance, il est sorti. Après, quand on lui laisse une minute, c'est fini, on le revoit plus, quoi, il grimpe.
C'est toujours du public avec ses espoirs, Olivier. Ça aussi, cette montée de l'Isoard, peut-être avec l'étape entre Nantua et Chambéry, ça reste peut-être le plus beau moment et le plus grand moment de ce Tour de France.
Pour moi, c'est l'un des plus beaux moments. C'est vrai que, vraiment un type, parce qu'on ne savait pas jusqu'au bout, parce qu'il est remonté vite. Oui. C'est lui qui a monté le col le plus rapide, puisqu'il a rattrapé le leader. Derrière, je pense qu'on aurait lâché un peu les brides à Landa, je pense qu'on aurait eu peut-être autre chose. Mais une super victoire, un super panache, et puis une popularité, je dirais un beau gosse, un beau caractère, un mec, qu'on a l'avenir, qui va rentrer dans les cœurs de ses spectateurs. Avec Bardet, Barguil, on a une Calmejane, on a une génération qui, je pense, qui peuvent nous promettre de belles journées encore.
Ouais, ça aussi, ça a rendu ce tour sympa, 5 victoires d'équipe, 5 victoires françaises sur ce tour. Il y avait très longtemps que cela n'était pas arrivé. Et puis hier, donc, Marseille, on est parti du stade Vélodrome, on est arrivé au stade Vélodrome, la symbiose du foot et du vélo, victoire de Bodnar, le Polonais. Bon, on sait ce qu'il en est advenu, Bardet a complètement raté son contre-la-montre, il saute quand même sur le podium pour une petite seconde, il devrait conserver malgré tout sa troisième place aujourd'hui. Uran termine deuxième, Froome va gagner le tour sans gagner d'étape, ça c'est gênant.
Non, c'est son style, gérer les contre-la-montre était pas assez long pour qu'il en gagne une cette année. Même le contre-la-montre d'hier, il était plus faible parce qu'on l'a plus à Tati, c'est toujours pareil, comme je dis, les étapes de montagne, il a plus souffert cette année que les années précédentes quand il a gagné. Donc c'est pour ça qu'il arrive à diminuer au contre-la-montre. On reprend la vieille astuce avant, à l'époque, Hino, quand les Colombiens sont arrivés. La première année, il s'est fait avoir à la montagne parce qu'il était fringant. Il dit, maintenant, les Colombiens, on va les faire rouler 80 km avant sur le plat. Ils vont arriver au pied du col, ils vont être un peu fatigués. Et là, Froome, il arrive au contre-la-montre, qui est sa spécialité, fatigué. Et il fait moins d'efforts, il a de moins bons résultats. Donc c'est pour ça mais par contre, un super parcours, en montant cette magnifique 1,8 km de montée. Bon, un peu technique derrière, heureusement qu'on n'a pas eu de pluie parce que je pense qu'on arrive beaucoup plus de dégâts. Mais puis le départ est arrivé au stade Vélodrome, une ambiance apparemment, bon, rien qu'à entendre à la télé, c'est une super ambiance. Et je pense que Bardet, son départ, son décompte des 5 secondes, ça a peut-être dû un peu le stresser, mais bon, il y a aussi les efforts physiques qu'il avait fait avant, mais les 5 secondes, il faut se rappeler ces 5 secondes de départ, ce monde dans le Vélodrome qui l'a encouragé, c'était hyper.
Et Bernard, un bon coureur, ce coureur polonais qui gagne ce contre-la-montre.
Bah, c'est un bon rouleur, hein, j'irai. Après, ce sont les rouleurs que j'irai qui, pendant les étapes de montagne, ils savaient que leur objectif, c'est de gagner l'étape. Donc, les étapes de montagne, ils finissent en groupe tôt, à 45 minutes. Ben, on fait des réserves. Les réserves qu'a pas pu faire Froome, même Martin, c'est parce que Martin, c'est la fois qu'il roule pour Christophe. Donc, et puis, deux, trois chutes en plus qu'il a eu. Donc, c'est pour ça qu'il est diminué, hein. Faut pas se leurrer, hein. Martin, s'il aurait fait le même principe que les autres, a fini à 45 minutes. Je pense qu'il aurait été les 14 secondes qu'il perd hier, il les aurait gagnés. Donc voilà, c'est gérer un contre-la-montre en fin de tour, c'est énormément, il faut énormément de réserves. Hein, c'est donc ben puis un très bon coureur, de toute façon un très bon rouleur, hein, c'est pas de souci.
Alors le classement, hein, qui est le classement ce matin de cette 21e étape qui devrait être en principe le classement général final. Froome donc qui va emporter en 83h55min7s. Uran, le Colombien, sera deuxième à 54 secondes. Troisième Bardet 2:20. Quatrième donc Landa 2:21. Petit suspense, hein, mais enfin en principe on peut penser que Bardet quand même montera sur la troisième marche du podium. Cinquième Harou, 3:05. Sixième Dan Martin à 4:42. Septième Yates, l'anglais, à 6:14. Simon Yates. Huitième Menreich, c'est ça, hein, l'Africain du Sud, c'est pas facile à dire, à 8:20. Neuvième Contador, 8:49. Et puis le dixième, c'est Barguil, donc qui rentre dans le top 10, 9:25. Chapeau quand même à Contador qui va sûrement se retirer. Bon, il a couru avec ses moyens, mais en tout cas, il a toujours été, dès qu'il a pu, aux avant-postes.
C'est ça, donc malheureusement il visait la victoire, il a plus les jambes, donc il a dû se rabattre sur des victoires d'étape qu'il n'a pas non plus obtenues. Ouais. Mais à chaque fois il a tenté, c'était de loin, il a vraiment jamais baissé les bras, et pour moi il méritait le prix de la combativité quand même, parce que même sans ses jambes, il a toujours essayé.
Oui, à l'image justement de cette étape du 14 juillet, hein, que va gagner donc Bardil entre Saint-Giron et Foix, puisque Contador avait été un des premiers attaquants. Alors on l'a dit, 167 coureurs qui terminent. Je voulais quand même citer les certains noms de coureurs qui ont abandonné, parce qu'il y a quand même eu des grands noms qui ont abandonné dans ce tour. Valverde, Richie Porte, Fulsang, le vainqueur du Dauphiné n'est libéré, Sagan, hein, naturellement exclu, Cavendish, Demar, Kittel, et puis Philippe Gilbert. Ça fait quand même pas mal, des beaux coureurs, certains qui ont gagné beaucoup de belles courses cette année, Olivier. Et puis tire un coup de chapeau à Thomas Vauclair, qui termine son 15e Tour de France. C'est la fin de sa carrière. Il n'a jamais abandonné une seule fois dans le Tour de France.
Bah oui, bah, un caractère, hein, vraiment un caractère. Et puis l'année qu'il a porté son maillot jaune, qu'on n'aurait même plus voir, géré par un peu, on était pleuré, qu'il aurait pu gagner le Tour de France. Bah, une fameuse étape sous la pluie, une de mordure. Il finit avec 17 minutes d'avance.
À Chartres, on y était.
À Chartres. Et tout le monde a rigolé, mais enfin, à la fin, il rigolait pas trop, hein, parce qu'il a fallu vraiment se cravacher pour lui reprendre 17 minutes. Et bon, il était un peu limité en montagne, ce qui a perdu, mais voilà.
Donc, quatrième du tour en 2011, hein, faut pas l'oublier, il a bien résisté.
Ah ben, il a bien résisté, hein, et puis, ouais, puis toutes les courses, hein, parce que c'est un attaquant.
Champion de France aussi.
Champion de France, mais dans les classiques, il est présent, il attaque, bon, avec son caractère, sa tête. Donc je pense qu'en toute façon, il va pas quitter le monde du vélo. Je pense
On parle de lui pour Aesso.
Voilà, pour Aesso, pour remplacer un peu Bernard Hinault sur leur mise et maillot, puis dans l'organisation. À Aesso, ce qu'ils ont toujours bien su faire, c'est récupérer, gérer les grandes têtes du vélo pour s'en bien s'entourer, puis être vraiment resté dans le monde du vélo. Et bon, il aura sa place largement, et puis bon, une très très belle carrière. Après, des leaders qui ont perdu, bah oui, c'est l'effet de course. Malheureusement, la malchance, hein, ça y fait. Hein,
Non, mais ça prouve, hein, pour le grand public, bon, nous, on connaît le vélo, on connaît le milieu, mais pour le grand public, ça prouve qu'on n'a pas le droit à l'erreur sur un Tour de France. C'est-à-dire qu'on a 38 de fièvre, c'est foutu, c'est râpé. Ah, on finit pas l'étape, et on arrête le tour.
On arrête le tour, et puis, ben, j'irais un peu super costaud, mais bon, une bande blanche sous la pluie, ben, ça nous cache un tour.
Nous, 38 de fièvre, on fait des émissions quand même.
Ben oui, mais eux aussi, parce qu'il y en a des coureurs qui ont fait des...
Ah, ils finissent peut-être pas le tour, hein. Il faut être dans les délais, hein.
Oui, il faut être dans les délais, mais enfin, ils partent pour être éliminés du Tour de France, pour arrêter. Il faut vraiment être au bout des 32 de fièvre, mais j'en ai vu à 41 de fièvre. Tony Galopin qui fait avec une entorse les deux, trois premiers jours.
chapeau à Tony Galopin, hein, qui a bien fini son Tour de France. Hein.
Bah, très bien fini. Alors donc, des efforts. Quand on voit des coureurs qui sont râpés des pieds à la tête après une gamelle, que j'aimerais beaucoup qui seraient déjà rentrés chez eux à se plaindre pendant 4 mois ou 6 mois arrêtés, eux les gars, ils sont remontés sur le vélo. Non, non, ils vont à l'extrême. Hein. C'est pas du 38 de fièvre. Et quand ils ont 38 de fièvre, c'est qu'ils ont vraiment de problèmes à côté. Quand on quitte le Tour de France, c'est vraiment qu'on peut pas faire autrement.
Oui, non, c'est ça. C'est pour dire au grand public que malheureusement, la moindre chose, ça peut faire dérailler. On l'a vu avec Desmar, hein, qui gagne une étape, et puis trois jours après, il est vidé, il a plus de force. Et comme disait Olivier, un tour, ça peut s'arrêter la veille ou l'avant-veille, on peut tomber, on peut... Il y a eu des coureurs, hein, qui malheureusement ont abandonné la veille de l'arrivée du tour, hein, sur un contre-la-montre, ils sont tombés, ils ont chuté, ils étaient hors de forme, c'était impossible. Bon, sur la dernière étape à Paris, c'est beaucoup plus difficile, parce que la bataille, elle ne se fait que quand on rentre dans Paris. Et là, on peut pratiquement dire qu'on a fini le Tour de France.
Bah, des étapes Perrault, hein, il y a 4 ans, qui tombe dans le dernier contre-la-montre, la veille du machin, donc il était 3e, il tombe, il perd sa place de 3. Donc c'est pour ça que je disais une chute, il faut faire très attention. Là, hier, Uran qui fait tomber. Après, c'est quand même Fignon. Hein. Fignon, quand il perd le dernier jour pour 20 secondes.
Oui, mais là, il y a l'exploit quand même de Greg LeMond aussi.
Il y a l'exploit, puis bon, il y avait l'exploit quand on sortait le guidon triathlon, voilà, c'est plein de choses. Mais voilà, c'est les circonstances de course qui font, c'est la course qui finit, comme on dit, la ligne d'arrivée, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Hein. Mmh. Et demain, ça sera une autre course, ça sera une autre circonstance. Voilà, aujourd'hui, la ligne d'arrivée, c'est sur les Champs-Élysées à tel endroit, il faut faire attention. Ce qui est un peu regrettable, c'est que maintenant, cette dernière étape a fait un peu folklore et qu'on fasse que les 120 km. Ouais. Moi, je verrais bien une étape qui parte, de l'Essonne, qu'on s'arrête toute la veille de Chevreuse, mais avoir une vraie compétition. Ouais, comme on a vu cette année à Paris-Nice. Paris-Nice, la première étape à Paris-Nice, ça a bouleversé tout le Paris-Nice. J'aurais bien une étape comme ça, une seconde pour Uran. Bon, 2 minutes maintenant, c'est fini pour Froome, mais à 30 secondes près, on peut encore faire des écarts dans la voitureuse, hein, ça fait une belle classique, on peut arriver. Voilà, donc c'est un peu dommage qu'on finisse à la veille qu'on déclare. C'est pour ça qu'on dit une seconde, même Uran, Bardet va finir troisième. Voilà, donc bon, il faut faire attention de ce côté-là.
Alors justement, ceux qui veulent venir assister, encourager ceux qui les ont fait rêver pendant 3 semaines sur les routes du Tour, eh bien, j'ai donné tous les lieux de passage. Hein. On va d'abord rappeler que ça partira à 16h40, un départ réel devant le réveil matin. C'est là que le premier Tour de France en 1903 avait commencé. C'est à Montgeron, ici. Ensuite, on ira sur Villeneuve-Saint-Georges, Villeneuve-le-Roi, Ablon-sur-Seine, Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Viry-Châtillon, Morsan-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge, Épinay-sur-Orge, Balizy, Longjumeau. Hein, où je sais qu'on va faire une belle fête pour le Tour.
C'est ça, donc il va y avoir une fête et puis surtout un critérium d'après-tour le 31 juillet prochain.
Voilà, on en reparlera. Chili Mazarin, Massy, Anthony, Croix-de-Berny, Sceaux, Bourg-la-Reine, Bagneux, Cachan, Arcueil, Montrouge. On arrivera dans Paris en principe entre 17h44 et 17h51 par la porte d'Orléans. Ensuite, ce sera la porte de Versailles, le pont de Garigliano, la voie Georges Pompidou, le pont des Invalides, les quais d'Orsay, Esplanade des Invalides, le pont Alexandre III, parce que c'est ça aussi, hein, le tour lorsqu'il arrive sur Paris, dans le Grand Palais. Et puis ensuite, entrée sur le circuit, il y aura 8 passages sur la ligne d'arrivée et une arrivée au sprint en principe prévue entre 19h11 et 19h25. On peut imaginer, Olivier, le coureur qui rentre dans Paris, quoi. C'est le sentiment du devoir accompli, 3 semaines de souffrance. On peut avoir certains frissons quand même. Hein.
Ah ben bien sûr, c'est un grand plaisir. Il y a beaucoup de coureurs. Alfredo, hier, il disait, il a été pendant, il y a de mon passage dans la tête qu'il a dit d'abandonner. Il n'a jamais été aussi loin physiquement dur. Il dit c'est le moral. Donc arrivé sur Paris, le départ de Montgeron, déjà les coureurs, ils ont soufflé. Après, bon, il faut finir sur les champs. Bon, c'est pas évident, hein, parce que bon, on fait 1h30, 2 heures de route à 24 à 25 à l'heure, puis d'un seul coup, il faut embrayer. Sportivement, physiquement, c'est pas évident. Hein, donc il faut faire très attention. Et puis faire attention, parce que je dirais malheureusement, la pluie peut être là sur la fin, et la pluie sur les pavés, c'est jamais très bon. Donc il faut faire attention, pas risquer justement la chute fatale sur la fin.
Alors en plus de son classement général, vous pourrez aller naturellement donc applaudir Froome avec son maillot jaune, Matthews, l'Australien Michael Matthews, hein, qui va finir maillot vert, Barguil qui va finir meilleur grimpeur et qui remporte donc le prix de la combativité, et Simon Yates qui sera donc maillot blanc, et puis l'équipe Sky donc qui va s'imposer au classement général par équipe. Voilà, donc on marque une deuxième pause musicale, un petit break, et ensuite on parle déjà de ce qui nous attend peut-être dans les prochains mois. Allez, on y va.
à Rambouillet, 14 rue Châles, et c'est ma fenêtre, votre spécialiste Isofrance, vous invite à venir découvrir son showroom et toute sa gamme de fenêtres, stores, volets, portes d'entrée et portes de garage, sur mesure, en PVC, bois, alu et mixte. Et c'est ma fenêtre vous propose des produits adaptés à vos besoins pour isoler, chauffer votre maison tout en réalisant des économies. Alors, pour un devis gratuit, contactez votre spécialiste et c'est ma fenêtre, 14 rue Châles à Rambouillet, au 01 30 88 62 32.
Vous vendez, vous louez, DPE Amiante Plomb loue Carrez. Agenda Diagnostic, leader du marché, diagnostique vos maisons, appartements, immeubles, commerces et bureaux. Profitez de l'expérience du premier réseau de diagnostic immobilier au meilleur prix. Agenda Diagnostic Sud-Yvelines, 01 34 83 80 10. www.agendadiagnostic.fr.
Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11.
J'ai contemplé tes yeux des nuits, des jours durant. J'ai plongé dans les cieux de ce bleu. J'ai dessiné ton corps dans ses moindres recoins sans mettre le nez dehors, sans penser à demain. Le temps étant déprimé, nous sommes passionnés. Nos bouches qui s'abîment ne veulent plus s'arrêter. En huis clos, mon amour, dans mon appartement, sans voir la nuit, le jour, c'est pas très reposant. Adieu la pluie, le cœur en peine, les nerfs en vrac, c'est déjà fini. J'en reprends pour un an, quotidien solitaire, ma vie en noir et blanc. Inspiration précaire, le temps défile et je n'ai plus de nouvelles du tout. Je dessine sur les murs ce qu'il me reste de nous. Quelques baisers mouillés, à perdre la raison, j'inverse les journées, je confonds les saisons. À profiter de toi.
C'est un peu réconcilier les spectateurs avec le vélo, et puis ça donne aussi peut-être du dynamisme, de l'enthousiasme au président de club que vous êtes vis-à-vis des jeunes, parce que on s'est régalé pendant 3 semaines.
Ben voilà, ces événements font que ben c'est nos motifs pour continuer, hein, pour essayer de redynamiser, pour essayer pour voir l'avenir. Le Tour de France, l'objectif aussi d'avoir des Jeux Olympiques plus tard, ça fait que ben ça nous permet de continuer, d'être motivés, de voir tirer des jeunes. Nous, on a une école de vélo qui commence à bien tourner, et donc c'est notre but, hein, de progresser, de les amener à ce niveau-là. Et oui, quand on a une animation, des Français qui reviennent au premier plan, ça fait voilà, ça, j'espère que nous, l'engouement va revenir des coureurs. Après une Coupe du Monde, on a eu pas mal de petits footeux. On a eu des handballeurs, on a eu des basketteurs. Ben, pourquoi pas, le Tour de France peut nous ramener des coureurs. Bon, la difficulté, c'est qu'on est sur les routes, et les routes sont de plus en plus difficiles à s'allier avec les voitures. Ça, c'est un phénomène qui est très pénalisant pour nous, hein, et que je comprends que les parents ont du mal à laisser les enfants sur les routes. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'un engouement peut, pour nous, c'est un rayon de soleil. Voilà.
Et puis, ben, ce qui manque plus maintenant, c'est que les Français gagnent le Tour. Alors ça, on verra, on connaîtra le tracé du Tour 2018 le 17 octobre prochain. Mais ce serait ce qui pourrait arriver de mieux, hein, qu'enfin un Français succède à Bernard Hinault, donc au palmarès du Tour de France.
Ben, un Français et des Français. Un Français qui gagne le Tour, des Français qui gagnent des balles maillot à poids, des classiques, un champion du monde, un champion olympique, de la piste qui est en progression, qui revient. Voilà, donc tout ça fait que ça redynamise l'avenir de nos jeunes.
Nicolas, alors on parlait justement du critérium, ça va prolonger le Tour de France. Il faut venir sur le jumeau pour ceux qui ne seront pas en congé le 31 juillet. Ça va être une façon de prolonger le Tour de France. On parlait d'Offredo, ça va être un des leaders de ce critérium. Hein. Lui aussi, de par son comportement, de par son état d'esprit, n'a pas laissé indifférent sur le Tour de France.
Non, c'est sûr, c'était son premier Tour de France. Il nous l'a fait vivre au plus près, avec ses joies, sa première étape, enfin la deuxième plutôt, où il est parti en échappée, il a retenté encore après. Mm-hmm. Ensuite, il nous a fait vivre le Tour, mais côté souffrance, avec sa maladie, c'était vraiment très dur pour lui. Et donc, il va arriver cet après-midi sur les champs, c'est une victoire pour ce coureur, pour son premier Tour.
Donc, il sera là, est-ce qu'on connaît le plateau ou certains coureurs qui ont donné leur apport, leur accord? On parle de Tony Galopin, on a vu Maxime Boué, hein, le supporter de l'Olympique de Marseille qui était là l'année dernière, qui sera là. Est-ce que Chabanel, qui était là aussi l'année dernière, sera là?
Oui, c'est ça. Donc, Sylvain Chabanel sera de retour, tout comme Samuel Dumoulin, qui avait remporté le critérium. Mmh. Johan Offredo aussi, logiquement. Tout comme Johan Offredo, Tony Galopin. Et donc, Maxime Bouet sera aussi de retour. Mmh. À noter aussi que, du coup, Benjamin Thomas sera présent, le double champion du monde piste cette année.
D'accord, ok. Donc, ça sera une belle façon de prendre le Tour de France et d'aller au contact de ceux qui ont fait rêver donc tous les amoureux du sport pendant ces trois semaines. Merci, messieurs, en tout cas, d'avoir commenté, d'être revenus, d'avoir pris du plaisir sur ces trois semaines de Tour de France. Rendez-vous donc le 31, hein, Nicolas, à Longjumeau, on prolongera ce Tour de France. Nous, on vous ramènera des petites interviews sur ce qui se passera cet après-midi après l'arrivée. Hein, ça passera dans nos journaux d'infos, comme on l'a fait pour l'Open de France de golf et pour la dernière réunion hippique de l'hippodrome de Rambouillet. Olivier, dernier petit mot, 1er octobre, on fêtera aussi les 40 ans de votre club.
Oui, les 40 ans de l'Union sportive Poigny-Rambouillet cycliste. Donc les 40 ans, le matin la gentleman, traditionnel gentleman, et l'après-midi on fêtera ça une semaine après les championnats de France de pompiers qu'on organisera le 23 et 24 septembre à Poigny-la-Forêt. Donc là ça va faire 15 jours assez dense.
Merci messieurs, merci d'être venus conclure cette dernière émission de la saison et la fin de ce Tour de France ici à Montgeron. Bon dimanche à toutes et à tous, à très bientôt, et puis plus que jamais, vive le vélo et vive le Tour de France. Merci.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.